Nous continuons donc notre périple et une fois passé le Jourdain et pris Jéricho, le peuple s'installe à Gilgal. Ce qui nous amène à notre question du jour. Quelle est votre attitude face au péché qui détruit votre vie? Est-ce que vous considérez le péché comme un élément perturbateur, une chose qui vient déranger, bousculer, contre lequel vous devriez lutter pour retrouver votre vraie vie? Est-ce que c'est comme ça que vous considérez le péché? Ou est-ce que vous considérez le péché comme un compagnon un peu gênant, parfois drôle, souvent stupide, mais qui fait partie intrinsèquement de qui vous êtes et avec qui vous avez appris à vivre? La vérité, c'est que le péché est un élément perturbateur qui n'a rien à faire là, mais qu'on le traite souvent juste comme un pote gênant. Et qu'on se dit qu'en fait, c'est gênant, mais bon, ma foi, c'est la vie. Eh bien si, en fait, c'est pas la vie. C'est grave, c'est mal et c'est anormal. On ne doit pas faire avec parce que ça nous détruit. Et c'est ce que Dieu a appris au peuple à l'occasion d'un épisode un peu trash qu'on va lire ce matin. Mais comme on a fait déjà du trash avec Ésaïe hier, je pense qu'on peut faire un package et continuer. Jusque-là, pour le peuple, tout va bien. Certes, il y a eu des défis, mais le peuple est obéissant. Josué est un bon chef et Dieu tient ses promesses. Et c'est particulièrement criant lors du chapitre 6 avec la prise de Jéricho, qu'on va pas étudier en détail, hein, je suis désolée pour les frustrés. Dieu leur demande des trucs très étranges, tourner autour de la ville, jouer du cor, mais ils obéissent sans râler, sans poser de questions et finalement ils triomphent. Le Jourdain a été traversé, Jéricho a été prise, tout va bien, mais Josué 7, c'est la fin de la lune de miel, c'est la rupture, c'est le drame. Ce drame, le voici, et je vais demander à Laurie de s'approcher pour le lire. C'est un texte dur, certes, mais le texte est là, dans la Bible, et Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a quelque chose à nous dire concernant notre lutte contre le péché. Laurie, je te laisse la parole.
Je lis dans la version Summer. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Achan, fils de Carmi et descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, prit pour lui certains de ces objets, et l'Éternel se mit en colère contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes à la ville d'Aï, près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, en leur demandant d'explorer cette région. Ils allèrent explorer Aï. À leur retour, ils dirent à Josué: il est inutile d'envoyer toute l'armée. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple, car l'adversaire est peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 soldats allèrent attaquer la ville, mais ils furent mis en fuite par les habitants d'Aï, qui leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent dans la descente. Alors le peuple atterré perdit tous ses moyens. Josué déchira ses vêtements et se jeta la face contre terre devant le coffre de l'Éternel et resta là jusqu'au soir. Les responsables d'Israël firent de même. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué s'écria: « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve! Maintenant, je te prie, Seigneur, que puis-je dire après qu'Israël a pris fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur? » L'Éternel répondit à Josué: « Lève-toi, pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Israël a commis un péché, on a transgressé l'alliance que j'avais établie pour eux. On a pris des objets qui m'étaient voués, on en a dérobé, caché et mis dans ses propres affaires. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leur ennemi. Ils fuiront devant eux, car ils sont sous le coup d'une sentence de destruction. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. Maintenant, lève-toi, Josué. Convoque le peuple et purifie-le. Dis-leur, purifiez-vous pour demain, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. Vous ne pourrez pas résister à vos ennemis tant que vous n'aurez pas ôté cela du milieu de vous. » Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu. Puis la tribu que l'Éternel désignera par le sort se présentera, groupe familial par groupe familial, et le groupe familial que l'Éternel désignera s'avancera famille par famille. Dans la famille que j'aurai désignée, les hommes se présenteront un par un. Celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et fit avancer les Israélites tribu par tribu. Et c'est la tribu de Juda qui fut désignée. Il la fit approcher groupe familial par groupe familial. Le sort désigna celui de Zéra. Il fit passer les familles du groupe familial de Zéra l'une après l'autre, et c'est la famille de Zabdi qui fut désignée. Il fit avancer cette famille homme par homme, et Akan, fils de Carmi, descendant de Zabdi et de Zéra, de la tribu de Juda, fut désigné par le sort. Josué lui dit, « Mon fils, je te prie solennellement, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de l'honorer en m'avouant ce que tu as fait, sans rien me cacher. » Akan lui répondit, « C'est vrai, j'ai commis une faute envers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un magnifique manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. J'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparé. Ces objets sont enterrés au milieu de ma tente et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes à la tente d'Akan. Ils se dépêchèrent d'y aller et retrouvèrent effectivement le manteau enfoui dans la tente et l'argent en dessous. Ils prirent le tout et l'emportèrent à Josué et à tous les Israélites. Puis on les déposa devant l'Éternel. Josué, aidé de tous les Israélites, saisit Akan avec l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, bref, tout ce qui lui appartenait, et ils les menèrent dans la vallée d'Akor. Josué dit à Akan, « Pourquoi nous as-tu attiré le malheur? Que l'Éternel fasse ton malheur aujourd'hui. » Alors tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Ils lapidèrent aussi tous les siens et brûlèrent les cadavres. Puis on éleva sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. Après cela, l'Éternel abandonna sa colère. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé Vallée d'Akor, Vallée du Malheur, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour.
Merci beaucoup, Laurie. C'est un texte trash, hein, je vous avais prévenu, mais normalement, vous l'avez déjà lu. Mais ce texte a quelque chose à nous dire quant à notre attitude face au péché, face au mal qui déclenche des crises dans nos vies. Et la première chose qu'on voit dans Sexe, c'est qu'on a une situation de crise. Le chapitre précédent nous raconte la glorieuse victoire de Jéricho, ou comment Dieu a montré à son peuple que c'était lui qui combattait pour eux. Le peuple prend donc la ville avec une consigne de la part du Seigneur, qu'on trouve en Josué 6 au verset 18. Toute la ville, population, bétail, bien, doit être vouée à l'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était interdit de se l'approprier. On tue les habitants, on n'en fait pas des esclaves. On tue le bétail, on ne l'ajoute pas à son cheptel. On brûle les objets, on ne les ajoute pas à ses biens. Et pour ce qui est de l'or et de l'argent, cela va dans le trésor de l'Éternel, dans le trésor du tabernacle. Le but de l'interdit, c'est d'une part de protéger le peuple de l'idolâtrie. Les idoles et les idolâtres sont enlevés du territoire. Et d'autre part, d'éviter qu'ils s'enrichissent par cette conquête. C'est l'Éternel qui a combattu, c'est l'Éternel qui reçoit son salaire. La règle est simple. Elle est dure, on en reparlera, mais elle est simple. Mais verset 1, c'est comme ça que s'ouvre le chapitre 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité à l'égard des objets voués à l'Éternel. Car en effet, Akan s'était approprié certains objets. Ce qui a pour effet immédiat que la colère de l'Éternel s'enflamme. Et j'aimerais juste vous montrer le plan du texte que vous avez aussi dans votre livret. Vous avez ce qu'on appelle communément ou vulgairement, je sais pas, une structure en miroir. Où les événements de la deuxième partie du texte, ceux qui parlent de la résolution du drame dans les versets 13 à 26, répondent exactement à ceux de la première partie, ceux qui nous présentent le drame des versets 1 à 12. La colère de Dieu s'enflamme, c'est le verset 1, et le verset 26, on nous dit que la colère de Dieu, de l'Éternel, s'est détournée. Au verset 2 et 7, on nous raconte la défaite d'Israël à Haï, et au verset 25 et 26, on nous rappelle la défaite d'Akan, le désastre pour Akan. Dans les versets 6 à 9, Josué demande ce qui s'est passé, et dans les versets 16 à 23, Josué préside à la désignation du coupable. Vous avez l'Éternel qui explique le problème dans 10 à 12 et l'Éternel qui donne la solution au problème 13 à 15. Et au milieu, vous avez cette deuxième partie du verset 12 où Dieu dit « Vous ne résisterez plus à vos ennemis si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. » Au centre, on a le problème. C'est tout le projet de Dieu qui est remis en cause par le fait que les objets voués à l'interdit subsistent encore. S'il reste... Si certains objets qui sont censés être consacrés à l'Éternel restent, alors Dieu ne sera plus avec eux. Et si Dieu n'est plus avec eux, alors ils se feront massacrer et ils ne s'installeront jamais dans la terre promise. Un acte, un seul petit acte, on va parler, hein, c'est un manteau et quelques lingots, un seul petit acte et tout menace de voler en éclats. Parce que le projet de Dieu ne peut se faire que selon les procédures de Dieu. Si vous voulez jouer le jeu de Dieu et le gagner, il faut en respecter les règles, il faut respecter les termes de l'Alliance. Et c'est ce que le peuple est censé comprendre et savoir. Et c'est ce que n'avait pas compris Akan, qui voulait le beurre, la terre promise, et l'argent du beurre, les richesses de Jéricho. Comme nous, qui voulons être chrétiens et continuer à trimballer notre pote gênant. C'est le péché, le pote gênant. Mais Dieu avait dit non. Et Dieu, si Dieu tient ses promesses de bénédiction, il tient aussi ses promesses de malédiction. Si le peuple obéit, Dieu le rendra vainqueur. S'ils désobéissent, ils vont se faire massacrer. Et cela commence avec la défaite à Haï, où ils y vont tranquilles, pensant que ça va passer crème. Et en fait, ils subissent une défaite et il y a des morts. Il y a une situation de crise. Et le texte nous présente aussi dès le début qu'il y a un coupable. Et ce coupable, c'est Akan. Akan savait quelles étaient les règles, mais il les a enfreint. La présence de Dieu au milieu de son peuple est remise en cause. Pourquoi ? Verset 21, pour un manteau babylonien, alors sans doute un manteau luxueux, hein, puis à l'époque c'était pas la fast fashion, donc les manteaux c'était des trucs qu'on gardait toute notre vie et qui étaient vraiment précieux. 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. Notre question, très importante pour nous qui avons maintenant un petit peu la vision d'ensemble, c'est, mais qu'est-ce qu'il s'est donc passé dans la tête d'Akan ? C'est pas de la compassion, hein. C'est pas qu'il a vu une personne et qu'il s'est dit « Oh le pauvre, je veux pas le tuer », etc. Il a pris des richesses pour lui. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là ? Et la réponse, elle est simple. Il en est arrivé là, toujours de la même manière avec le péché. Il s'est passé dans la tête d'Akan la même chose qui se passe dans notre tête avant que nous désobéissions au Seigneur, et la même chose qui s'est passée dans la tête d'Ève en Genèse avant qu'elle ne désobéisse. Parce que certains l'auront peut-être remarqué à la lecture, mais lors de sa confession, Akan reprend quasiment mot pour mot une phrase que Ève disait dans Genèse 3, ou dont on dit à propos de Ève dans Genèse 3, verset 6. Si vous reprenez la confession au verset 21, « J'ai vu, j'en ai eu fortement envie, alors je m'en suis emparée. » Exactement les trois étapes que Ève suit dans Genèse 3. « J'ai vu, j'en ai eu envie, je m'en suis emparée. » Pour Ève, c'était « J'ai vu que le fruit était bon, il était désirable, alors j'en ai mangé. » Je l'ai désiré, alors j'en ai mangé. Chez Ève, chez Akan, et chez nous, le mécanisme du péché est toujours le même. On voit, on en a envie et on s'en empare. Mais entre le « on en a envie et on s'en empare », il y a une étape qu'on nous détaille pas ici, mais qu'on nous détaille en Genèse 3 dans le dialogue entre Ève et le serpent. Ce moment où on commence à douter de Dieu. Dieu exagère. Il demande ce qui n'est pas juste, il ne veut pas mon bien, il se plaît à me refuser quelque chose que je veux juste pour me frustrer. Ce sont ces réflexions qui nous font passer de « j'ai envie » à « je m'en empare ». Prenons Akan devant ses objets. « J'ai besoin d'argent. Comment Dieu pense que je vais nourrir ma famille si je ne peux pas prendre l'argent de la conquête ? C'est mon salaire, j'ai combattu. Je ne vais pas réussir à vivre sans cet argent et ce magnifique manteau. Il me les faut, il me les faut, il me les faut. Et puis c'est pas juste. Les armées victorieuses ont toujours pillé les biens des perdants. C'est comme ça que ça marche dans le monde entier. Pourquoi nous, on n'aurait pas ce droit-là ? Pourquoi nous, on serait frustrés de ce salaire qui est tout à fait juste ? Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est la règle partout dans le monde. Si Dieu ne me donne pas cet argent, alors que j'en ai besoin et que ces objets sont là devant moi, pourquoi me prendre la tête ? J'ai juste à tendre la main. Être obsédé par quelque chose que Dieu nous refuse, penser que Dieu n'est pas juste, envisager le péché comme la solution la plus efficace au problème. Voilà ce qui nous fait passer à l'acte, ce qui nous fait voir le péché comme un pote gênant, mais un pote qui nous facilite un petit peu la vie à certains moments. On pourrait donner des milliers d'exemples de ce processus. Je vous en donne juste 3, pris totalement au hasard. Je souffre trop de ma frustration sexuelle. Dieu m'a pas donné de conjoint, je suis pas fiancée, je vais pas me marier, ou alors pas un conjoint qui répond exactement, correctement à mes besoins. Alors je me masturbe et je regarde de la pornographie. Mais c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui me donne pas ce dont j'ai besoin pour gérer ma frustration sexuelle. Deuxième exemple. J'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de ce job. Je suis en galère, j'arrive pas à trouver de logement et Dieu ne m'a pas ouvert les portes. Alors je vais mentir dans mon CV. Je vais mentir dans mon dossier. Je vais tricher dans mon dossier de bourse ou de demande de subvention. Mais c'est parce que c'est Dieu aussi qui tient pas ses promesses et qui m'a pas donné le travail dont j'avais besoin. Troisième chose, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de devoir expliquer le comment, du pourquoi, de ma décision, de mon comportement. J'ai peur que les gens réagissent mal, me trouvent bizarre, prennent leur distance si je dis la vérité. Alors je mens. C'est plus facile. Tu fais quoi ce week-end? Un truc. Je dis pas que je vais au GBU, je dis pas que je vais à l'église, je dis un truc. Manquer de confiance en Dieu et choisir la solution de facilité quand nos désirs et nos besoins se font trop bruyants. C'est ça le péché. Et c'est ça exactement que fait Akan dans ce texte. Akan cède donc, il pêche, et au lieu de se repentir, il s'endurcit. Pourquoi je dis ça alors qu'il avoue tout au verset 20 et 21? Parce que sa confession des versets 20 et 21, c'est pas de la repentance. C'est l'aveu d'une personne prise sur le fait et collée au mur et qui ne peut plus faire rien d'autre que d'avouer. Et Akan aurait pu se repentir. À la lecture, la première lecture, je me suis beaucoup demandé pourquoi Dieu utilise un tel système de désignation. C'est long, c'est compliqué. D'abord on désigne la tribu, puis on désigne le groupe familial, puis on désigne la famille, puis on désigne le mec dans la famille. En présence de tout le peuple, qui s'est purifié parce que la présence de l'Éternel va se manifester, un immense tirage au sort qui va avoir lieu et par lequel l'Éternel désigne le coupable, la tribu, le groupe familial, la famille et finalement Akan. C'est un peu lent, non? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas juste sortir un gros doigt qui descend du ciel et qui dit « C'est lui, là !» Désolé, c'est lui, c'était pas... « C'est lui, là, qui est là !» C'est bon, c'est fini, on se purifie et on repart, quoi. D'une part, pourquoi faire ce système de désignation un peu long? D'une part, parce que il faut que tout le peuple assiste à la révélation du coupable, parce que tout le peuple est concerné, on en parlera. Mais d'autre part, parce que ces longueurs doivent permettre à Akan de dire « en fait, c'est moi ». Il aurait eu le temps, mais un temps de malade, de dire « en fait, c'est très grave ce que j'ai fait, il faut que je me repente ». D'implorer le pardon, de se repentir et d'implorer le pardon du Dieu et du peuple. Mais il le fait pas. Il est silencieux pendant tout le processus de désignation. Aveuglé par le péché et la bêtise, il s'endurcit et pense d'une manière totalement stupide, mais le péché nous rend stupide, que peut-être il va passer entre les mailles du filet. Et il finit par avouer uniquement quand il a plus le choix et que le gros doigt de Dieu s'est posé sur lui. Alors la punition de Dieu tombe pour lui et pour sa famille. Parce que Akan n'est pas le seul coupable, sa famille l'est aussi. Au verset 21, il nous apprend qu'il avait caché son butin au milieu de sa tente. C'est l'équivalent de « j'ai fait un trou dans ma salle à manger et j'ai mis les trucs dessous et j'ai recouvert ». Ça paraît difficile d'enterrer des objets au milieu de sa tente sans que les autres habitants de la tente ne s'en rendent compte. Tous ont été complices, soit en décidant avec lui de prendre les objets, soit au moins en ne le reprenant pas et en ne le dénonçant pas. Tous ont péché, toute la famille est complice puisque le péché a été dissimulé en plein milieu de l'espace familial et donc tous vont être punis. Et puis comme Dieu l'avait annoncé en Josué 6 verset 18, « Seulement gardez-vous de ce qui est voué par interdit, de peur que vous ne deveniez vous-même interdit en prenant ce qui est interdit. » Les personnes qui prennent ce qui est interdit deviennent eux-mêmes interdits. Ils auront donc le même sort que l'interdit, la destruction. Les personnes qui pêchent deviennent eux-mêmes pécheurs de la malédiction sur le péché et donc vont vivre la même sentence que le péché lui-même, être détruit. Et là, on peut pas échapper à la question. J'espère que vous vous êtes posé cette question quand vous avez lu le texte. D'accord, il a péché. Et le péché, c'est mal. D'accord, il avait l'occasion de se repentir et il s'est endurci, il l'a pas fait. Mais quand même, la mort, par lapidation, qui plus est, ce qui est pas la mort la plus tranquille, est-ce que c'est pas un peu trop cruel, un peu trop disproportionné? Alors, sans aucun doute, c'est excessif à nos yeux d'occidentaux du 21e siècle, mais l'histoire d'Akan nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort, et la condamnation à mort, elle a été donnée de la façon dont c'était fait à l'époque. Peut-être nous, on a trouvé ça moins violent que ce soit de la chaise électrique, mais en fait, à l'époque, c'est comme ça qu'ils condamnaient à mort. Ça nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort, et qu'on ne badine pas avec la sainteté de Dieu. Et la grâce dans tout ça. On sait que Dieu fait grâce. On sait qu'il fait grâce à nous qui venons après la venue de Jésus, mais déjà dans l'Ancien Testament. Oui, on en a eu la preuve avec Rahab et les Gabaonites hier, qui sont les deux récits qui encadrent, je vous avais parlé un peu qu'il y avait une structure de miroir sur plusieurs chapitres, ce sont les deux récits qui encadrent le péché d'Akan, et c'est pas anodin. On parle du jugement de Dieu enrobé par deux actes de grâce. C'est pas du tout anodin. Il devait être voué à l'interdit, Rahab et les Gabaonites, mais Dieu leur a fait grâce. Alors pourquoi eux ont eu droit à la grâce et pourquoi Akan n'a pas eu droit à la grâce? C'est Pierre qui nous donne la réponse, le Pierre de la Bible. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Dieu a fait grâce à Rahab et aux Gabaonites qui se sont humiliés devant l'Éternel, qui ont reconnu qu'ils méritaient de mourir et que seul l'Éternel pouvait les sauver. Mais il a résisté à Akan, qui s'est endurci et enorgueilli, qui pensait qu'il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Akan et son famille sont les coupables de l'histoire. C'est à cause d'eux que le peuple a connu une défaite à Haï. Et pourtant, le texte insiste aussi sur le fait qu'il y a d'autres responsables à cette défaite. Et c'est la troisième partie. Voilà, j'ai peut-être même un temps de question. Les responsables. Qui sont ces responsables? Eh bien, c'est tout le peuple, et particulièrement ses chefs. On peut déjà se poser des questions sur la tentative de conquête d'Haï. Au verset 2, sans prendre le temps de rentrer à Gilgal, le camp de base, Josué envoie des éclaireurs à Haï. Le rapport est enthousiasmant. Ça va être facile, ils sont peu nombreux, c'est même pas la peine de déplacer tout le monde et de fatiguer les gens pour rien. 2 ou 3 000 hommes suffiront. Ce rapport est purement militaire. Rien à voir avec le rapport des 2 éclaireurs qui étaient revenus de chez Rahab et qui parlaient des promesses de Dieu et de la puissance de l'Éternel. Ici, on fait sans Dieu. Un peu comme lors du rapport des premiers espions envoyés à Jéricho par Moïse, les fameux 12 là que vous avez eu tendance à confondre avec les 2, en nombre 13, qui sont envoyés en éclaireur à Canaan et qui reviennent vers Moïse en disant que « Oh là là, c'est des géants, ils sont super forts, ils sont super nombreux, la conquête est impossible, il faut pas y aller. » Ils faisaient sans Dieu, mais pour des raisons différentes. Pour l'envoi des 12 éclaireurs à Jéricho sous Moïse, on ne pense pas à Dieu, on lui demande rien parce qu'on se pense trop faible. C'est mort en fait, c'est même pas la peine de demander quelque chose à Dieu, c'est juste mort. Les cars, ils sont vraiment trop forts et nous on est vraiment trop faibles. C'est mort, Dieu ne pourra rien faire. Pour la situation qu'on a aujourd'hui, pour Haï, on ne pense pas à Dieu, on ne lui demande rien parce qu'on se pense trop fort. Mais c'est bon, c'est trop facile, c'est même pas la peine de demander à Dieu. Je vais pas non plus demander à Dieu des trucs où en fait je sais que je maîtrise la situation. C'est super facile, militairement, etc. C'est dans la poche, Dieu ne sert à rien. C'est horrible, je trouve, de réaliser avec ces deux exemples qu'on peut mettre en parallèle, qu'il y a aucune situation qui rend facile le fait de se tourner vers Dieu. Que ce soit dans l'épreuve ou dans l'abondance, ça demande un réel acte de foi de se rappeler que les choses dépendent de Dieu et pas de nous. Qu'est-ce qui se serait passé si Josué n'avait pas compté sur ses propres forces et qu'il avait consulté l'Éternel avant de lancer l'attaque contre Haï? J'imagine assez bien que Dieu lui aurait dit une version alternative du verset 11. Israël a commis un péché. On a transgressé l'alliance que j'avais établie avec eux. On a pris des objets qui m'étaient voués. C'est pourquoi les Israélites vont se prendre une raclée à Haï si vous ne détruisez pas ce qui est au milieu de vous. » Donc oui, dans une certaine mesure, Josué et les anciens sont aussi responsables de la défaite parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Mais on peut même encore aller plus loin juste pour le plaisir de les accabler. Après la défaite, tout le peuple est consterné. Tout le peuple est consterné. Ils comprennent pas, ils sont complètement dépités. Josué et les anciens vont devant le coffre de l'Alliance, ils déchirent leurs vêtements, ils se jettent dans la poussière et ils se répandent auprès de Dieu en plainte et en « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est pas juste !» Parce qu'ils savent bien, quand même, ils sont pas totalement stupides, que ce n'est pas un problème de stratégie ou d'éclaireurs qui ont mal fait leur travail. S'ils ont perdu, c'est que l'Éternel n'a pas fait son travail. Et c'est là où le bât blesse dans leur questionnement. Ils devraient savoir pourquoi. Ils devraient savoir que Dieu n'abandonne pas son peuple sans raison et que la seule raison possible était qu'un péché contre lui avait été commis. Et on comprend pourquoi Dieu reprend un peu durement Josué au verset 10. « C'est bon, relève-toi là, ça va. Arrête de te rouler dans la poussière. Tu devrais être en train de chercher le coupable plutôt que d'être en train de te rouler dans la poussière devant moi. » Mais Josué est assez mauvais, sur le coup, ça arrive pas souvent, donc voilà. Et sa prière, je sais pas vous, mais sa prière, ou plutôt sa complainte, nous met assez mal à l'aise. Je propose qu'on la relise. Dans les versets 7 à 9, voilà ce que notre cher Josué dit à l'Éternel. « Ah, Seigneur, pourquoi donc as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple si c'est pour nous livrer aux Amoréens et nous faire périr? Si seulement nous étions restés de l'autre côté du fleuve. Maintenant, je t'en prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à Israël qui a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et les autres habitants du pays l'apprendront et nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Comment alors feras-tu reconnaître ta grandeur ?» Bon. Ça termine par un rappel de la gloire de Dieu, ce qui sauve un petit peu le truc. Mais il faut reconnaître que c'est quand même un petit peu étrange. Ils regrettent d'avoir traversé le Jourdain. Ça met quand même mal. Ils prêtent de mauvaises intentions à Dieu. Est-ce que c'est pour qu'on crève que tu nous as fait traverser le Jourdain? Et verset 9, il a peur de l'extermination. Il termine par la gloire de Dieu. C'est quand même pas trop mal. Le livre de Josué aime bien faire des parallèles avec les événements passés. Normalement, vous l'avez un petit peu remarqué, je fais presque un parallèle par matin. Et ici, cette prière, normalement, vous en rappelle étrangement une autre. D'autres moments où le peuple a tenu à peu près le même discours. D'autres personnes qui regrettaient d'avoir traversé la mer Rouge et traversé le désert et qui pensaient que Dieu les avait sauvés d'Égypte juste pour les faire crever de faim en Canaan. Ou alors tué par les Cananéens. La génération de Josué et de Caleb, en nombre 14, qui en punition sont morts dans le désert avant d'arriver au Jourdain. Tout le peuple, en fait, plusieurs fois durant les 40 ans dans le désert, ont eu cette phrase. Ah oui, mais non, en fait, on aurait mieux fait de rester en Égypte. Parce que là, je suis sûre, c'est nul ce qu'on va faire et tu vas nous laisser mourir. Et Josué reprend exactement. Oh là là, on aurait dû rester de l'autre côté du Jourdain. C'est exactement ça ce que fait Josué. En nombre 14, Josué était un de ceux qui n'avait pas cédé à la peur et qui disait mais non, vous inquiétez pas, l'Éternel va s'occuper de nous et tout. Mais ce jour-là, il cède à la peur et redit exactement ce que les Israélites disaient avant. Mais étonnamment, Dieu ne le lui reproche pas. Ce qu'il lui reproche, c'est quand même fort de café, c'est d'être en train de prier et de pleurer. Lève-toi, lève-toi. Pourquoi restes-tu prostré la face contre terre? Josué ne devrait pas être en train de pleurer devant le coffre de l'Alliance. Il devrait être en train d'enquêter et de poser des questions, de chercher quel est l'acte de désobéissance qui a été commis et qui l'a commis. Attention, phrase clé, phrase choc, punchline. Parce que parfois, prier, c'est procrastiner. Parce que parfois, prier, c'est reculer le moment d'agir alors qu'on sait très bien qu'on devrait agir. Prier pour que Dieu nous délivre de notre addiction aux pommes alors qu'on a scellé notre maison dans un verger de pommes, je suis désolée, c'est procrastiner. Déménage, déménage. Prier pour que notre pommier pousse alors qu'on ne l'arrose jamais et qu'on met pas d'engrais. Arrête de te moquer de Dieu comme ça. Occupe-toi de ton pommier. C.S. Lewis disait souvent, il priait pour les gens pour se déculpabiliser de pas les appeler. Ces prières ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Dieu nous demande de nous lever et d'agir en conséquence du problème et de la situation qui est devant nous. En la lui remettant, bien sûr, mais en prenant nos responsabilités. On peut pas servir de la prière comme une excuse pour se dédouaner d'agir. Une fois la défaite subie, Josué aurait dû réagir. Il aurait dû chercher le coupable plutôt que de penser que le problème venait des Cananéens et de pleurer devant Dieu. Le problème, ce n'est pas les Cananéens. Le problème, ce sont les Israélites. Tous les Israélites, pas juste à Cannes, tous les Israélites, tout le peuple. Verset 1, les Israélites commirent un acte d'infidélité. C'est que Akan, mais le texte dit les Israélites. Verset 11, Israël a commis un péché. Verset 13, vous avez au milieu de vous, Israélites, ce qui m'est voué. C'est tout le peuple qui est incriminé pour le péché d'une seule famille. Pourquoi une telle solidarité? Parce qu'ils sont tous responsables les uns des autres. Les membres du peuple étaient responsables d'Akan. Ils auraient dû empêcher que cela arrive. Ils auraient dû savoir que cela était arrivé. Ils n'auraient pas dû être ignorants et aveugles, et cela leur est reproché. À travers ce qui est reproché à Josué et à tout le peuple, Dieu nous dit une chose: veillons les uns sur les autres. Veillons sur ceux qui sont tentés pour les aider à pas tomber. Veillons sur ceux qui ont péché pour les amener à la repentance. Encourageons-nous les uns les autres à obéir à Dieu. Il s'agit pas ici de se surveiller les uns les autres. OK? Il s'agit pas d'aller débusquer chez l'autre le péché en se prenant pour le garant de la bonne moralité tels les pharisiens. C'est pas ça du tout. Il s'agit d'un commun accord de prendre soin les uns les autres pour s'encourager dans la foi et s'encourager dans le chemin de la sanctification. Oser se poser des questions et oser donner des vraies réponses. Laisser l'occasion aux autres de venir nous voir pour juste nous dire « Je lutte parce que ce manteau, il me fait vraiment envie et je sais pas comment faire pour pas m'en emparer. » Et laisser l'occasion, ça veut dire quoi? Ça veut dire être disponible et être le genre de personne dont on n'a pas peur du jugement, mais dont on s'attend à recevoir de la compassion et de l'aide. Soyez le genre de personne dont on n'a pas peur du jugement, mais dont on s'attend à recevoir de la compassion et de l'aide. Il y a un cercle vicieux. Plus le peuple de Dieu se juge, moins le peuple de Dieu confesse ses péchés. Et du coup, on n'avance pas. Plus le peuple de Dieu est capable de recevoir une confession avec grâce et bienveillance, plus le peuple de Dieu peut se repentir, changer et sortir le péché du milieu de lui. Est-ce que vous êtes ce genre de personne? Est-ce que vous êtes ce genre de personne où les gens savent, si je veux aller parler de mon problème à Simon, je sais qu'il va pas me regarder de travers, je sais qu'il va pas être choqué, je sais qu'il va pleurer avec moi et qu'il va prier avec moi et qu'il va m'aider à avancer sur ce chemin. Veillons les uns sur les autres, partageons nos luttes, confessons nos péchés les uns aux autres. Pas à tout le monde, inutile de faire une confession publique à la célébration finale de toutes les choses que vous avez fait de mal cette semaine, mais entourez-vous de gens à qui vous faites confiance, à qui rendre des comptes et qui eux-mêmes vont vous rendre des comptes. Conclusion, j'aurais pas tant de questions, je me suis encore fait griller par mon enthousiasme. Conclusion, quelle est votre attitude face au péché qui détruit votre vie? On a commencé par cette question, il faut finir par une nouvelle question. Quelle devrait être votre attitude face au péché qui détruit votre vie? Trois choses issues du texte sur lesquelles je veux finir avec vous. Résistez à la tentation. Dressez-vous contre les mensonges qui vous polluent le cerveau, disant que Dieu n'est pas bon, disant que Dieu n'est pas juste, disant qu'il préfère les autres et qu'il préfère donner des bénédictions aux autres et pas à vous, disant qu'il veut vous frustrer. Résistez à ces mensonges qui vous polluent le cerveau. C'est Satan qui est en train d'essayer de changer votre image de Dieu pour que vous pensiez qu'il ne veut pas votre bien et que vous allez être obligé de passer par des voies détournées pour avoir quelque chose. Résistez à la tentation. Deuxième chose, ne vous endurcissez pas. De mon expérience, je suis pas non plus hyper vieille, donc c'est une petite expérience, mais je la partage quand même avec vous. De mon expérience, les gens s'endurcissent dans le péché parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'ils pensent qu'ils sont allés trop loin, que de toute façon c'est trop tard, et que de toute façon ils ont trop péché, que ça sert à rien, que c'est pas possible de revenir en arrière. L'idée qu'il n'y a pas de retour possible. De toute façon, maintenant j'ai fait le mal, donc voilà, allons-y quoi. Mais oh, c'est l'inverse de l'évangile ça. Il y a toujours, toujours un retour possible. C'est toujours possible, non seulement d'être pardonné en Jésus-Christ, mais aussi d'être changé par le Saint-Esprit et de pas refaire toute votre vie les mêmes erreurs. Ne vous endurcissez pas. Ne croyez pas ce mensonge qui vous dit que vous êtes allé trop loin et que maintenant c'est trop tard et que péché pour péché, autant y aller à fond. Ne vous endurcissez pas. Troisième chose, veillez les uns sur les autres. Aimons-nous au point de vouloir nous aider dans notre lutte contre le péché, au point de nous confronter à nos tentations pour nous exhorter à résister et à ne pas s'endurcir. Que le Seigneur fasse de vous, fasse de moi, des personnes fortes qui résistent au péché, des personnes humbles qui reconnaissent leurs fautes et des personnes bienveillantes qui s'intéressent vraiment à leurs frères et sœurs.